tu veux la vérité dans l'homme intérieur. Dans l'Épître aux Romains, Épître aux Romains au chapitre 7, verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, de l'entendement, je sers la loi de Dieu, mais de la chair, la loi du péché. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, au verset 14. Je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 4, au verset 16, c'est l'apôtre Paul qui parle, ainsi pourquoi nous ne nous lassons point, mais si même notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire. Nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. L'homme intérieur. Nous comprenons tous cette expression en rapport avec la personne et la personnalité humaine de tout homme. Et tout homme, quel que soit son état spirituel, croyant ou non croyant, et à un intérieur et un extérieur. Il y a sa manière extérieure de vivre, son apparence corporelle, et puis son activité. Il y a tout ce que fait son corps, il y a tout un homme extérieur, nous comprenons cela. Mais il agit, différents membres, notre corps agit selon les impulsions d'un être intérieur, qu'on l'appelle l'âme, qu'on appelle le dedans, qu'on appelle, suivant l'expression très large, très vague, que ce mot, le sens très large, très vague, que ce mot revêt souvent dans la parole, le cœur, il y a un être intérieur. Non seulement une âme vivante, comme en ont tous les animaux, mais une âme vivante qui a été donnée par Dieu, l'esprit a été fourni par le souffle de Dieu dans les narines de l'homme formé par lui, et cet homme intérieur est capable alors de mouvement d'un ordre moral. Il se trouve avec des possibilités de relation avec Dieu, mais quelle relation? Quelle relation? L'homme intérieur. Avons-nous regardé quelquefois dans notre être intérieur? Et nous sommes-nous arrêtés? Oui, tout homme, plus ou moins, s'est arrêté devant ce qu'il est, moralement, intérieurement. Il y a, hélas, j'ai dit hélas parce que cela a été acquis au prix de la désobéissance, du péché, et cela n'a servi qu'à mettre en évidence que l'homme est devenu pécheur. Il y a la conscience. Il y a la conscience naturelle par laquelle nous avons évidemment une certaine connaissance du bien et du mal. Il y a des choses que nous sentons mauvaises, d'autres bonnes, des choses dans lesquelles notre conscience nous accuse, et d'autres dans lesquelles elle peut nous éprouver, nous approuver. Mais cette conscience, elle est marquée comme tout ce qui est de nous-mêmes par l'imperfection, l'insuffisance, et par-dessus tout, elle a été faussée par le péché, par la désobéissance de l'âme. De sorte qu'en réalité, notre intérieur, donc parler de ces choses très rapidement et en passant, mais nous les sentons bien tous, n'est-ce pas, que notre être intérieur, en tant qu'enfant d'Adam, en tant qu'homme naturel, c'est à la fois une énigme pour nous et un ensemble de choses qui nous font reculer lorsqu'il s'agit de nous interroger véritablement. Et Dieu, dans sa parole, vient nous dire ce qu'il en est. Il vient nous dire, et c'est le prophète Jérémie dans le chapitre 17, qui vient nous dire que le cœur humain est quelque chose d'inconnaissable, d'insondable, mais qui est trompeur. Le cœur est trompeur par-dessus toute chose, par-dessus tout, et incurable. Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve les reins. Pour nous, la conscience agit et parle D'abord, dans la mesure où nous la laissons parler, toutes les choses de la vie courante tendent, et il y a un ennemi derrière tout cela, pour empêcher notre conscience de parler. Et puis, elle ne peut nous éclairer sur le fond de nous-mêmes que dans la mesure où elle est elle-même éclairée. La conscience juge d'après des règles que les hommes ont établies, que les usages ont établies, qui peuvent varier d'un pays, d'une classe de la société à l'autre, d'une profession à l'autre, que sais-je. De sorte que la conscience est quelque chose d'extrêmement divers, d'extrêmement élastique. Et quand on parle d'agir selon sa conscience, s'il ne s'agit que de la conscience naturelle, c'est d'un instrument bien imparfait qu'on se sert. Et l'ennemi sait très bien endormir la conscience et nous faire nous estimer supérieurs aux autres, ou si il y a des choses particulièrement répréhensibles pour nous dire que, eh bien, mais tu ne fais pas plus mal que les autres, mais celui-ci te fait bien pire, mais tu n'as pas à te mettre en peine de tel ou tel manquement, etc. Tant que Dieu est mis de côté, la vraie lumière permettant d'aller au fond de notre cœur, que dis-je, de pénétrer quelque peu dans notre âme intérieure, nous manque. Or, Dieu veut la vérité dans l'âme intérieure. Qui dira la vérité sur notre être intérieur? Je le répète, l'homme laissé à lui-même est l'homme qui ne veut avoir d'autre lumière que la sienne ou celle de ses semblables, reste dans l'inconnaissance de ce qu'il est et de ce qu'il vaut moralement. Ah, il y a bien la pensée de Dieu qui intervient. Et de temps en temps, dans une vie, il n'est pas possible que de telles questions ne se posent pas. Mais on les refuse, on les repousse. Oh, on est trop occupé par les affaires, on est à la recherche de mieux être, de mieux vivre. On veut l'argent, on veut la considération, on veut les honneurs, on veut une grande place dans ce monde. Mais la conscience s'endort peu à peu. Nous, si elle se réveille, on a vite fait de lui donner un somnifère. Seulement, quand la lumière est là, et quand la vérité, quant à l'homme intérieur, la vérité que Dieu connaît, il sait ce qu'il en est de tous nos cœurs, il les sonde. Quand sa lumière pénètre dans l'âme et que nous commençons à voir les choses comme Dieu les voit, ah, alors tout change. Alors, il s'agit, lorsque Dieu parle, de l'écouter. Il s'agit que dans l'homme intérieur, on laisse pénétrer la lumière de Dieu. Et cette lumière, c'est sa parole. C'est ce que cette parole divine nous fait connaître de la volonté de Dieu à l'égard de l'âme, la loi de Dieu qu'il a donnée, et les exemples, illustrations qui remplissent ce saint livre. Cette lumière, Dieu veut qu'elle atteigne les consciences, et cela par la puissance, une puissance qui n'est pas la nôtre, par une opération qui ne vient pas de nous, et qui est celle de Dieu, de la grâce de Dieu et de la vérité de Dieu, et par l'Esprit de Dieu. Et c'est ainsi seulement que nous pouvons nous connaître. C'est ainsi que la sagesse, cette sagesse après laquelle les hommes prétendent courir de tant de manières, que la vraie sagesse nous est donnée. Tu me feras connaître, tu me feras comprendre la sagesse dans le secret de mon cœur. Ah, quand la lumière de Dieu est là, quand l'Esprit de Dieu est là, quand Dieu parle à l'homme, il s'agit pour celui-ci, il s'agit pour nous de le laisser parler. Il s'agit de laisser la lumière pénétrer dans notre âme. Oh, ce n'est pas peu de choses. Ce n'est pas avec un évangile superficiel qu'on réglera de telles questions. Ce n'est pas en écoutant seulement des chants agréables un instant à l'oreille que l'on descendra dans le fond de son âme, et pourtant il le faut. Il le faut avec la lumière de Dieu, avec la lampe de Dieu, avec la parole de Dieu, en laissant l'Esprit de Dieu agir. Heureux celui chez qui une telle opération, une telle œuvre de grâce salutaire s'accomplit. Alors, l'homme intérieur change. Plus exactement, l'homme intérieur ignorant de Dieu, l'homme intérieur que nous avons par naissance, par nature, entaché et du péché, qui est le péché d'Adam, mais qui est le nôtre. Nous ne réfugions pas derrière la notion si fallacieuse et du péché originel. Et chacun est responsable pour lui-même, chacun doit rendre compte à Dieu. L'homme intérieur, cet homme intérieur, il est montré, il est vu dans toute sa dégradation. Il l'est vu dans tout ce qu'il a d'horrible aux yeux de Dieu. La lumière divine montre cela. Quand le Seigneur Jésus était sur la terre, il pouvait parler de ces choses, et il parlait de l'homme intérieur, et il disait ce qu'il y a dans le cœur, lorsque autour de lui des gens se glorifiaient ou s'estimaient satisfaits d'ornements moraux de la vie aux yeux de leurs semblables, en paraissant honorables, et même prétendant accomplir la loi de Dieu, mais en réalité leur cœur en étant écarté, ou bien simplement s'arrêtant à des rites extérieurs de propreté. Et le Seigneur dit, mais ce n'est pas des rites extérieurs concernant le manger et le boire. Et le Seigneur peut dire, mais ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. C'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui sort du cœur. N'entendez-vous pas que tout ce qui est dehors entrant dans l'homme ne peut pas le souiller, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et s'en va dans le lieu secret. Et il dit, ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme. Ce qui sort de l'homme, ah, lui savait, et il met en évidence ce qui sort de cet être intérieur, de cet homme intérieur. Mais du dedans, du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'âme. Et alors, il s'agit pour nous. Et quand Dieu nous parle, et de nous trouver, nous laisser trouver par sa lumière, et de trouver notre droiture, comme il est dit à Job, trouver notre droiture devant Dieu, voir ce que nous sommes devant Dieu. Descendre dans les profondeurs de notre homme intérieur naturel. Descendre là, par la grâce de Dieu et avec la lumière de Dieu. C'est un premier pas de la grâce salutaire. Et c'est déjà quelque chose qui nous parle d'un travail qui est un travail divin. Car laissé à nous-mêmes, et nous ne ferions pas cela, nous ne pourrions pas faire cela. Cela amène à la repentance. Et cela s'appelle simplement la foi. Et cela s'appelle par la foi accepter ce que Dieu a dit, le témoignage de Dieu. Dieu sait de quelle manière il aura parlé à chaque homme, mais en tout cas, pour nous tous, pour tous ceux qui appartiennent à des pays christianisés, il y a la parole de Dieu, il y a l'évangile qui a été présenté, que tout le monde a entendu plus ou moins, et il s'agit de le recevoir. Et si on le reçoit, je le répète, ce n'est pas pour que notre homme intérieur se réjouisse en lui-même et dira « Combien ça me fait plaisir d'entendre ces choses ». Non, en réalité, l'homme intérieur naturel ne veut pas ces choses. Il repousse l'évangile. Il n'y a rien pour Dieu. Mais quand Dieu parlant une fois et deux fois, on y prend garde. Et quand on dit « Ah, c'est la lumière de Dieu, c'est la parole de Dieu », quand le témoignage divin pénètre dans notre âme, l'homme intérieur ancien apparaît dans toute sa laideur et dans toute sa hideur, dans toute sa corruption, dans toute sa perversion, rien. Et j'entends même les plus belles choses morales aux yeux des hommes se trouvant tachées de péché, orgueil, égoïsme et en tout cas inimitié contre Dieu. L'homme naturel est étranger à Dieu, il n'en veut pas. Et voici que la foi recevant ce que Dieu a dit, c'est-à-dire et que tout homme est pécheur, et qu'il n'y a pas en lui de volonté agréable à Dieu, que toutes les expériences ont été faites, sans loi, sous la loi, parmi les païens, parmi le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, et toujours l'homme, le vieil homme, la nature d'Adam, s'est révélée toujours la même, incorrigible, incapable de se tourner vers Dieu et de le vouloir. Et recevoir la parole de Dieu comme étant ce témoignage de Dieu à l'égard de ce que nous sommes. C'est un effet de cette grâce qui vient nous montrer la vérité. C'est Dieu qui voulant la vérité dans l'homme intérieur et ne l'y trouvant pas, elle n'y est pas, vient l'y apporter, nous fait connaître la sagesse dans le secret de notre cœur, et nous, notre affaire, c'est de croire, c'est de recevoir. Je le répète, ce n'est pas un travail agréable. L'évangile qui libère, l'évangile et qui est la bonne nouvelle, la merveilleuse bonne nouvelle, elle n'est cela et que pour des gens qui se sont vus perdus, le salut n'a aucun intérêt, n'a aucune valeur aux yeux de quelqu'un qui ne se sent pas en danger, qui ne se sent pas perdu. Et le premier effet de la parole de Dieu, c'est de nous parler de la justice de Dieu qui est révélée du ciel contre tout ce qui est contraire à Dieu. Et nous voyons dans notre cœur tant et tant de choses qui sont contraires à Dieu. Êtes-vous descendu dans votre intérieur, dans le dedans de vous, non pas seulement avec votre conscience naturelle, mais avec une conscience placée dans la lumière de Dieu, face à ce que Dieu a dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avons-nous toujours aimé notre prochain comme nous-mêmes? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Voilà ce qui résume toute la loi. L'homme, dans son état naturel, ferme l'oreille à ces choses. Il dit, oh, ce n'est pas pour moi. Ou bien, il dit, oh, mais je suis capable de l'accomplir. Et, hélas, il se leurre, il s'abuse lui-même. Ou, plus simplement, il ne veut rien de ces choses, il les repousse, il s'en moque. Et il raille ceux qui peuvent croire encore à ces choses-là. Que dire? Ils restent avec leur vieil homme intérieur et la destinée finale ne peut être que de mourir dans ses péchés, et après la mort suit le jugement, et il y a le jugement éternel. Mais là où travaille véritablement l'Esprit, la parole de Dieu, dans un cœur qui laisse pénétrer cette lumière, oh, alors, je répète, les choses changent de face. Voici que peu à peu, va se former. Voici que naît un homme nouveau. Un nouvel homme intérieur. Et c'est ce que, dans le Nouveau Testament, l'expression homme intérieur désigne. Et c'est ce nouvel homme formé par une nouvelle naissance. Il vous faut naître de nouveau, dit le Seigneur à Nicodème. Il ne s'agit pas d'améliorer l'ancien homme intérieur. Il est condamné. Et où sa condamnation suprême a-t-elle été prononcée? Eh bien, lorsque il a consommé lui-même le plus grand crime qu'il put consommer. C'est-à-dire, lorsque Dieu étant venu vers lui en grâce, dans la personne de son Fils, l'homme n'en a pas voulu, l'homme l'a rejeté, l'homme l'a crucifié. Mais alors, dans ce qui était de la part de l'homme, le témoignage suprême de sa haine de Dieu, Dieu a montré, a manifesté, a glorifié son amour. Par cette même croix, instrument ignominieux de cruauté et d'iniquité, d'injustice à l'égard du Fils de Dieu, du Fils de l'homme, la même personne, Jésus, né ici-bas, a été l'instrument de la libération de pécheurs tels que nous. La croix, malédiction de Dieu à l'égard du péché, a vu sur elle l'homme parfait, le seul homme et dont l'homme intérieur a toujours été à la pleine gloire et la pleine satisfaction de Dieu. Un homme véritable mais sans péché, ayant part au sang et à la chair, subissant toutes les conséquences du péché, toutes les souffrances que le péché entraînait dans le monde, mais lui sans péché, et apportant parmi les hommes pécheurs la grâce et la vérité. Et on n'a pas voulu de lui, et on l'a crucifié, mais sur la croix, il a porté nos péchés. Et c'est alors, et c'est en vertu, et sur la base de cette œuvre qui a été accomplie une fois pour toutes, l'œuvre de notre rédemption à la croix du calvaire, que peut s'effectuer dans l'âme des hommes. Cela s'est fait de tout temps, cela s'est fait à l'avance, avant que Jésus vînt sur la terre, par anticipation, mais c'était toujours de la part de Dieu, sur le même principe, le même fondement qui serait posé un jour, c'est-à-dire la mort de Jésus-Christ. Bien, c'est en partant de cela, c'est sur la base de cela, que la grâce salutaire accomplit en nous son œuvre.
Qui n'ont pas connu Jésus, qui n'ont pas connu cette sagesse, ils n'eussent pas crucifié le Seigneur de gloire, mais selon qu'il est écrit, et l'apôtre cite ici ce passage que nous avons lu au début du livre du prophète Ésaïe, ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'âme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Quelle est la différence entre le passage du livre du prophète Ésaïe et la citation que l'apôtre en fait dans notre chapitre? Quelle est la différence? C'est pour cela que nous avons lu au début ce passage d'Ésaïe 64. La différence est celle-ci. Le prophète, en son temps, ne pouvait pas s'exprimer autrement. Qu'a-t-il dit? Nous lisons exactement. Dans ce chapitre 64e, dans ce verset 4e, « Jamais on a entendu, jamais on a ouï de l'oreille, jamais l'œil n'a vu. » Et voilà les mots que l'apôtre Paul ne cite pas. « Or toi, ô Dieu, ce que Dieu a préparé pour celui qui s'attend à lui. » Il y a quelque chose dans cette différence entre le texte et la citation du texte, quelque chose de franchement admirable. En Ésaïe 64, le prophète ne pouvait pas dire autre chose. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, or toi, ô Dieu, ce glorieux propos que nous avons évoqué tout à l'heure, ce propos des siècles, ce propos élaboré dans les profondeurs de l'éternité passée, Dieu seul, à un moment donné, il connaissait, dans l'économie précédente, Dieu seul. Il n'y avait que Dieu qui connaissait ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qu'il avait préparé pour celui qui s'attend à lui. Dieu seul le connaissait. Or toi, ô Dieu, que seul. Mais l'apôtre, maintenant, étant donné que le Saint-Esprit dont nous avons parlé cet après-midi est venu sur la terre et nous a donné la révélation des pensées du cœur de Dieu, l'apôtre ne peut plus dire « Or toi, ô Dieu », parce qu'il n'y a plus seulement Dieu qui connaît un tel propos, mais il y a ceux qui sont à lui, il y a ses enfants, il y a les rachetés du Seigneur, eux connaissent, chers amis, nous avons le bonheur de connaître ce glorieux propos de la grâce de Dieu à l'égard de l'homme et à l'égard de l'homme pécheur. C'est pour cela qu'en 1 Corinthiens 2, Ésaïe 64 devient ce que nous avons en Ésaïe 64, les paroles du prophète, mais il ne faudrait pas y ajouter « Or toi, ô Dieu », ce serait méconnaître la pensée de Dieu à notre égard. Alors, le Saint-Esprit est donc venu sur la terre, ce Saint-Esprit dont le Seigneur Jésus a beaucoup parlé, dans l'évangile selon Jean en particulier, il nous souligne les différentes activités du Saint-Esprit qui enseignera, qui rappellera, qui annoncera les choses qui vont arriver bientôt, qui rendra témoignage du Seigneur, qui nous conduira dans toute la vérité. Et l'apôtre d'ajouter, mais Dieu, cette sagesse, nous l'a révélée par son esprit. Ce n'est pas le cas pour le prophète Ésaïe, ce n'était pas le cas pour les saints de cette économie-là. Dieu seul connaissait un tel propos. Mais maintenant, par l'esprit, un tel propos nous est révélé, de telle sorte que, nous le répétons volontairement, l'apôtre n'aurait pas pu dire « Hors toi, ô Dieu ». Nous le connaissons. L'esprit nous a révélé ce glorieux propos de la grâce de Dieu. Et alors, chers amis, le temps passant, dans la fin de ce chapitre deuxième, nous avons un tableau magistral des opérations de l'Esprit de Dieu. Un tableau que nous connaissons bien, qui a du reste été présenté ici lors de réunions d'études, en son temps, durant l'été, les opérations de l'Esprit. En quelques mots, que fait l'Esprit de Dieu? Il révèle les choses profondes de Dieu. Ces choses révélées, nous les connaissons désormais. Est-ce que nous allons les garder en nous-mêmes, dans nos propres cœurs? Non, nous avons raison d'en jouir intensément, mais nous allons les communiquer. L'apôtre avait reçu donc des révélations particulières par l'Esprit de Dieu, et alors c'était là son ministère, il avait à communiquer de telles vérités reçues. Comment est-ce qu'il les communiquait? Il les communiquait par l'Esprit. Et enfin, ces choses communiquées devaient être reçues. Et comment sont-elles reçues? Elles sont encore reçues par l'Esprit de Dieu. On n'insistera jamais trop sur le Saint-Esprit, sur les opérations de l'Esprit de Dieu dans l'âme. C'est un très grand sujet, comme on l'a entendu cet après-midi. C'est, comme ça a été également écrit par un de nos frères conducteurs, la venue du Saint-Esprit sur la terre, telle qu'une personne de la divinité, troisième personne de la divinité, est un fait extraordinaire qui n'appartient qu'au christianisme seul. Jamais dans les économies passées, le Saint-Esprit n'est venu sur la terre tel qu'une personne divine. Il n'en sera pas davantage dans les temps à venir, dans ce qu'on appelle l'économie de la gloire, au jour du résidu fidèle d'Israël, au jour de la reprise de Dieu, de la reprise des voies de Dieu, des relations de Dieu avec son peuple terrestre. C'est là un fait extraordinaire qui marque en fait le christianisme, la venue du Saint-Esprit sur la terre. Ce fait extraordinaire n'appartient qu'au christianisme. Eh bien, c'est par le Saint-Esprit que les choses de Dieu nous sont révélées. C'est par le Saint-Esprit qu'elles sont communiquées, et enfin, c'est par le Saint-Esprit qu'elles sont reçues. La révélation des choses de Dieu par l'Esprit, nous l'avons au verset 10e, Dieu nous l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Et un petit peu plus loin, au verset 13e, l'apôtre revient sur cette pensée de la sagesse, ces grandes choses desquelles nous parlons non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l'Esprit, communiquant les choses spirituelles par des moyens spirituels. Et il y a là un enseignement très grand pour nous, chers amis, dans la présentation de la parole, dans le ministère de la parole. Aujourd'hui, en 1974, la parole de Dieu ne se présente pas, n'est pas présentée d'une autre manière que dans les années précédentes. La parole de Dieu se présente, est présentée, communiquée par des moyens spirituels et pas par d'autres moyens. Il est affligeant de voir tous les moyens dont aujourd'hui on peut se servir pour essayer d'étayer le ministère de la parole de Dieu. Inutile de dire que des procédés semblables sont absolument faux parce que indignes de Dieu. Un frère de cette région, un frère conducteur dont beaucoup encore aiment à rappeler la mémoire, un frère de cette région nous mettait en garde et nous disait « Attention à ce fait de vouloir rendre la parole de Dieu attrayante. Cela est absolument incompatible avec l'exercice d'un ministère de la parole selon Dieu. La parole de Dieu, c'est-à-dire les choses spirituelles, ne se communique que par des moyens spirituels. Ce n'est que dans la dépendance de l'Esprit de Dieu que nous pouvons réellement présenter la parole de Dieu. Attention, chers amis, nous nous adressons spécialement aux jeunes, attention à tous ces procédés dits modernes dont on se sert, que l'on nous présente pour essayer d'intéresser les âmes, d'attirer les âmes, d'exciter l'intérêt des âmes. Attention à tous ces procédés dont on se sert pour rendre la parole de Dieu attrayante. La parole de Dieu, ce sont les choses spirituelles. Les choses de Dieu ne se communiquent que par des moyens spirituels. Et enfin, cette parole qui nous a été révélée, qui est ensuite communiquée à une assistance, cette parole, elle est reçue dans l'âme encore par l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous avons lu à la fin de ce chapitre 2, quand il est dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit, car elles lui sont folies. L'homme animal, c'est-à-dire ce corps créé, avec en lui une âme créée. C'est cela l'homme animal. Eh bien, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies. Les choses de Dieu sont reçues par un homme, par une âme, que par l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu agissant dans cette âme et l'amenant à recevoir les pensées de Dieu. Retenons donc ces pensées, cette pensée concernant les opérations de Dieu que nous avons dans la deuxième partie de ce chapitre deuxième de 1 Corinthiens. L'Esprit de Dieu révèle les choses profondes de Dieu, elles sont communiquées par le même Esprit, et l'âme qui entre en contact avec les choses de Dieu les reçoit encore par le même Esprit. Un mot sur le dernier passage que nous avons lu dans l'Épître aux Philippiens, simplement pour faire ressortir, disons, la force de cette parole pour le connaître lui. Nous avons lu en effet ceci au verset 10e, pour le connaître lui et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Nous aimerions terminer ces quelques pensées par ce vœu, par ce souhait chaleureux, tout d'abord, que tous ici connaissent Jésus. Qu'il ne puisse pas être dit de quelqu'un dans cette salle qu'il n'a pas connu Jésus. Connaissons-nous tous Jésus, chers jeunes? Connaissons-nous tous Jésus? Pouvons-nous tous dire quel bonheur de connaître Jésus? C'est là le désir ardent de nos cœurs que chacun, chacune dans cette assistance puisse parler de Jésus comme étant son sauveur et parler du Fils de Dieu, pas seulement du Fils de Dieu qui a aimé le monde, qui a aimé les pécheurs, ou le Fils de Dieu qui nous a aimés, mais le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, que Dieu nous accorde de pouvoir le dire tous ce soir. Connaître Jésus, comme son sauveur personnel. La deuxième pensée, la dernière, l'autre pensée, c'est que ceux et celles qui connaissent le Seigneur, et nous savons qu'ils sont très nombreux dans cette salle, que nous puissions faire des progrès dans une telle connaissance, chanter un tel cantique en disant quel bonheur de te connaître, c'est une grande chose, il fait beau chanter un tel cantique, c'est toujours encourageant, très précieux pour nos âmes que de chanter de telles paroles, en fait dictées par le psaume 23e. Mais il importe, connaissant ce grand bonheur, bonheur suprême, de connaître Jésus, de faire des progrès dans cette connaissance. Si c'était le désir d'un serviteur comme l'apôtre Paul, à combien plus forte raison est-ce que cela devrait être notre désir, chers amis? L'apôtre, ce serviteur qui ne vivait que pour Dieu, il n'avait aucune autre raison de vivre sur cette terre, vivre pour Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. Il l'a dit, il l'a écrit et il l'a réalisé. De penser qu'il y a eu sur la terre un homme qui a pu dire, ayant le désir de déloger. Quel désir, chers amis? Eh bien, il y a un homme sur cette terre qui a exprimé en sincérité de cœur ce désir, ayant le désir de déloger et d'être avec Christ, car cela est de beaucoup meilleur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut la grâce de Dieu agissant dans un cœur pour produire un tel désir. Et d'autre part, ce même serviteur, qu'a-t-il dit quand il a vu son chemin de monter à Jérusalem? Qu'a-t-il dit? Voilà ce serviteur, l'apôtre Paul, qui arrive à Tyr. Il dit son projet de monter à Jérusalem. Les frères à Tyr lui disent, mais Paul, que vas-tu faire là-bas? Aller à Jérusalem? Mais as-tu bien réfléchi? Et la parole de Dieu nous dit que les frères à Tyr, la ville de la Phénicie, ont parlé par l'esprit. Les frères à Tyr lui dirent par l'esprit de ne pas aller à Jérusalem. L'apôtre va un petit bout de route, il arrive à Césarée. À Césarée, il rencontre un prophète du nom d'Agabus, et c'est ce prophète par l'esprit, chers amis. Donc ça ne pouvait être que la vérité, ça ne pouvait être que la communication de la pensée de Dieu. Par l'esprit, Agabus vient dire à Paul, il ne faut pas monter. Vois-tu, si tu montes à Jérusalem, tu seras lié pieds et mains, ton ministère itinérant prend fin. Ne monte pas à Jérusalem. Et l'apôtre peut dire, l'apôtre peut dire ceci, et c'est quelque chose de franchement admirable, il peut dire ceci, « Pourquoi donc brisez-vous mon cœur à moi qui suis prêt à mourir pour le nom du Seigneur Jésus ?» Un homme qui sur la terre a pu dire d'une part, ayant le désir de déloger et d'être avec Christ, d'autre part, « Je suis prêt à mourir pour le nom du Seigneur Jésus. » Et il est monté à Jérusalem, et n'entrons pas dans les détails de ce sujet qui est extrêmement digne d'intérêt, extrêmement édifiant. On s'est souvent posé la question si finalement Paul avait eu raison de monter à Jérusalem, et s'il aurait dû ne pas monter. Toujours est-il que jamais le Seigneur lui a adressé le moindre reproche, au contraire, plus tard, dans la dernière nuit, qu'il passe à Jérusalem, au contraire, le Seigneur, dans la nuit, vient vers lui, se tient près de lui, et lui dit, Paul, aie bon courage, tu as beaucoup souffert à Jérusalem. Il n'y a donc aucun reproche, aucune pensée de réprobation. Ce que j'ai constaté, dit le Seigneur, c'est que tu as beaucoup souffert pour moi à Jérusalem, il te faut continuer dans un tel chemin, et à Rome, tu souffriras encore beaucoup pour mon témoignage. Eh bien, ce serviteur n'avait qu'un désir sur la terre pendant que des jours lui étaient accordés. C'était de connaître le Seigneur. Et il le dit dans cette parole magnifique sur laquelle nous revenons avec raison souvent pour le connaître lui et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. C'est donc une chose de dire quel bonheur de te connaître, Jésus, secourable et bon berger. C'est une chose très précieuse, mais il en est une autre. Faire des progrès dans la connaissance d'un tel Sauveur, d'un tel Seigneur. Et c'est là le vœu par lequel l'apôtre Pierre termine son ministère écrit quand il désire que les frères auxquels il s'adresse croissent dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'il nous soit accordé à tous, chers frères, chères sœurs, chers jeunes frères et chères jeunes sœurs dans la foi, qu'il nous soit accordé à tous, surtout à vous, qui êtes au début de la vie chrétienne, qu'il vous soit accordé d'avoir un tel désir, de poursuivre un tel désir, le connaître lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances. C'est pour cela que Dieu nous laisse sur la terre. C'est la toute première chose. Avant tout service, avant toute activité, la première chose pour laquelle le Seigneur nous laisse sur la terre, c'est pour que nous fassions des progrès dans la connaissance de l'adorable personne du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous accorde cette grâce à tous dans des temps d'extrême faiblesse, des temps d'extrême pauvreté, un déclin qui nous afflige tous, que malgré tout nous persévérions en demeurant attachés de tout notre cœur au Seigneur, cherchant à le connaître toujours mieux, croissant dans la grâce d'abord, chers amis. La grâce tient toujours humble, elle maintient humble dans la grâce et dans la connaissance de cette adorable personne qu'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous en fasse l'inestimable grâce à tous.
Nous dirons deux ou trois passages, en commençant par l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3. Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 2. Si du moins vous avez entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été donnée envers vous, comment par révélation le mystère m'a été donné à connaître, ainsi que je l'ai déjà écrit en peu de mots. Vous pouvez comprendre quel est mon intelligence dans le mystère du Christ, lequel en d'autres générations n'a pas été donné à connaître aux filles des âmes, comme il a été maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit. Savoir que les nations seraient cohéritières et d'un même corps et coparticipantes de sa promesse dans le Christ Jésus, par l'Évangile, lequel je suis devenu serviteur, selon le don de grâce de Dieu qui m'a été donné, selon l'opération de sa puissance. Car au chapitre 4, je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelé, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité d'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. Verset 11, et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Verset 14, afin que nous ne soyons plus de petits enfants, ballottés et emportés ça et là par tout vent de doctrine, dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour égarer. Mais que, étant vrai dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, le Christ, duquel tout corps, bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement, produit selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour. Dans la première épître à Timothée, chapitre 3, cette parole est certaine, que si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une œuvre bonne. Il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, sage, honorable, hospitalier, propre à enseigner, non adonné au vin, non batteur, mais dit non querelleur, n'aimant pas l'argent, conduisant bien sa maison, sinon ses enfants soumis en toute gravité. Verset 8. De même, il faut que les serviteurs soient graves, non doubles en parole, non adonnés à beaucoup de vin, non avides d'un gain honteux, gardant le mystère de la foi dans une conscience pure. Et que ceci aussi soit premièrement mis à l'épreuve, ensuite qu'ils servent étant trouvés irréprochables. Et au verset 14, je t'écris ces choses, espérant me rendre bientôt auprès de toi, mais si je tarde, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. Encore un verset, toujours en rapport avec l'assemblée, dans la première épître aux Corinthiens, en vue de l'administration, première épître aux Corinthiens, chapitre 5. Au verset 2, verset 1er, il nous signale le fait très douloureux auquel se rapportent les pensées de l'apôtre. Et vous êtes sans fait d'orgueil et vous n'avez pas plutôt mené d'œil afin que celui qui a commis cette action fût ôté du milieu de vous. Car pour moi, étant absent du corps, mais présent en esprit, j'ai déjà, comme présent, jugé vous et mon esprit étant assemblé avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de livrer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ celui qui a commis cette action, j'ai jugé, dis-je, de livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé dans la journée du Seigneur Jésus. Votre ventrie n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte tout entière? Ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans vin. Au verset 9 de ce chapitre. Je vous ai écrit dans la lettre de ne pas avoir de commerce avec des fornicateurs, non pas absolument avec les fornicateurs de ce monde, ou les avares et les ravisseurs, ou les idolâtres, puisqu'ainsi il faudrait que vous sortiez du monde. Et maintenant je vous écris que si quelqu'un appelé frère est fornicateur ou avare ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'ayez pas de commerce avec lui, afin que vous ne mangiez pas même avec un tel homme. Car qu'ai-je à faire de juger ceux de dehors aussi? Vous ne jugez-vous pas ceux qui sont dedans, mais ceux de dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous-même. Une pensée ou une vérité qui a, semble-t-il, rapidement, plus ou moins rapidement, disparu dans ce qui porte le nom d'Église, c'est que le Seigneur, après son œuvre accomplie sur la croix, le Seigneur s'est employé, il a envoyé le Saint-Esprit. Une fois qu'il a été glorifié, il a envoyé le Saint-Esprit. Il y est toujours.